Ben. Et dans cette édition, on va à New York où Muaytay Brotherson a parlé décolonisation ce matin. On continue de suivre les inquiétudes des marins pêcheurs et on vous présente deux festivals en fin de journal. Le journal de la mi-journée, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
L'ONU parlait de décolonisation ce matin.
Oui, la quatrième commission de l'ONU où se donne rendez-vous chaque année des représentants politiques, associatifs et institutionnels polynésiens. On vous en avait parlé, le Tavigny a envoyé à New York pas moins de 17 représentants pour l'occasion. L'église protestante Maori en a dépêché 7 autres, intégrant notamment les représentants de l'association Moruroa et Tatu. Autant de pétitionnaires qui ont pris la parole tour à tour pour dénoncer le manque d'avancée avec la France sur la décolonisation de Maui Nui, les conséquences des essais nucléaires. Et Muaytay Brotherson était lui aussi aux Nations Unies, Charlie René.
Et oui, il y était comme l'année dernière en tant que président du pays. Et comme l'année dernière, il a rappelé que la victoire du Tavigny au territorial de 2023 devait donner de la portée aux demandes du parti indépendantiste d'entamer un vrai processus de décolonisation. Rappelez aussi que son gouvernement appuyait pleinement ce processus qui doit se faire pour Muaytay Brotherson de façon pacifique, concertée et surtout sous le contrôle des Nations Unies. Le président a aussi fait référence à la crise en Nouvelle-Calédonie qui souligne selon lui le manque de conscience de la France dans la détermination des peuples colonisés et le risque de placer ces mêmes peuples dans une impasse politique. Bref, un discours pas forcément original mais incisif auquel a répondu quelques minutes après l'ambassadeur de la France à l'ONU. Une confirmation donc de la nouvelle position de l'État qui ne joue plus à la chaise vide à l'ONU sur le dossier polynésien. Mais si l'ambassadeur a parlé, ce n'est que pour rappeler que la France jouait son rôle de protection et d'administration de ses citoyens en Polynésie et n'entendait absolument pas lancer un processus formel sous l'égide de l'ONU pour la décolonisation du Fénois. Une réponse pas à la hauteur des enjeux, a jugé Muaytay Brotherson sur Facebook. Le président compte s'entretenir de ce sujet avec le nouveau gouvernement de Michel Barnier à Paris, Valdemar.
Voilà, notez que les indépendantistes étaient de loin les plus nombreux pendant les débats polynésiens à l'ONU ce matin, mais les autonomistes avaient tout de même préparé une petite délégation. L'élu Tapura Te Puaraori Teritahi s'est ainsi exprimé à New York, de même que Isolde Butcher, la Tavana de Hao, le sénateur Tevaro Fritsch ou pour la première fois le député Moerani Frebo qui a insisté sur l'idée que les Polynésiens étaient plus concentrés sur leur avenir économique et social que sur la question de l'indépendance. On l'écoute à la tribune des Nations Unies.
Le traumatisme de la colonisation que certains continuent d'invoquer n'est qu'un murmure du passé. Une ombre qui s'estompe devant la lumière de la Polynésie moderne, forte et résiliente. Pourtant, en 2023, nos concitoyens ont temporairement placé leur confiance dans un gouvernement indépendantiste, poussé par des promesses de lutte contre la vie chère. Mais 15 mois ont suffi pour révéler la fragilité de ces promesses et la difficulté du gouvernement local à porter toutes nos responsabilités sur l'emploi, la fiscalité, l'éducation, l'économie, l'environnement ou la politique sociale.
Voilà, Moerani Frebo qui faisait partie des pétitionnaires à la 4e commission des Nations Unies qui continue actuellement ses travaux sur la décolonisation du côté de New York.
Pêcheurs et armateurs s'agitent contre la réforme du statut de marin pêcheur.
Ils ne veulent pas des changements de statut des marins pêcheurs que le gouvernement est en train de revoir. Alors actuellement, ces marins cotisent sur la base du salaire plancher de la pêche, un revenu inférieur au SMIC. Ce salaire est ensuite complété par des parts du produit des campagnes de pêche réparties entre armateurs et pêcheurs. Mais ce sera bientôt fini. Le gouvernement souhaite faire rentrer les marins pêcheurs dans le droit commun pour étendre leur protection sociale. Mais ça signifie une augmentation des cotisations, ce qu'on ne peut pas se permettre, c'est ce qu'avait dit Yan Qing, le président de l'association des armateurs de pêche hauturière. Le ministre Taïwini Tei a fait quelques précisions, notamment sur ces fameuses cotisations.
C'est des dispositions qui sont prises pour le secteur. Enfin, on ne parle pas de cotisations à la semaine, enfin, à l'heure, dans le mois, mais dans la semaine ou dans le mois, mais on parle de cotisations au moins dans sa globalité. On parle de cotisations par séquence de campagne de pêche.
Et le ministre assure donc être bien au fait des particularités du métier, notamment horaire. Mais avec ce nouveau statut, il s'agit de rendre le métier plus attractif pour les jeunes, dit-il, avec plus de sécurité sociale, aussi bien pour l'assurance maladie que pour la retraite. Pour lui, c'est donc une avancée sociale. Il évoque un échelonnement sur 10 ans pour la mise en place du statut de droit commun, avec une prise en charge du pays sur les cotisations patronales. Un statut qui devrait entrer en vigueur en début d'année prochaine.
Et une grève pourrait commencer mercredi.
Oui, 3 préavis ont été déposés dans les plus importantes sociétés de pêche couturières du pays, Vini Vini, Ocean Product et Wild Tahitian Tuna. Grève qui pourrait toucher d'autres sociétés à partir de jeudi. Les syndicats pointent le statut, mais également la restriction des zones de pêche. Un projet qui vise à définir des zones pour la pêche artisanale et d'autres pour les palangriers et les thoniers. Pour les professionnels, ces restrictions sont incompatibles avec le triplement de l'activité de pêche souhaitée par le gouvernement. Mais pour le ministre, il s'agit de préserver les techniques de pêche traditionnelles et aussi d'éviter les conflits.
Diriger un bateau avec un manche à balai, c'est une invention polynésienne. Pareil pour le potiroku, la pêche sur les bonitiers, sont des bateaux qui ont été mis en place pour nos techniques de pêche traditionnelles. C'est d'abord faire en sorte que ces techniques de pêche ne disparaissent pas au bénéfice d'autres techniques de pêche qui ne sont pas celles de la palangre, qui ne sont pas des techniques de pêche polynésiennes. Mais après, c'est également pour permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'usage entre les pêcheurs côtiers et les hauturiers.
Voilà, le ministre Taïvini Tehei, on vous tient bien sûr au courant de l'évolution des divers mouvements sociaux dans le secteur.
Et bientôt une piste cyclable à Paofai.
Eh oui, une piste qui doit traverser le grand parc de Papeete depuis le rond-point Jacques Chirac jusqu'à Toata. 1,2 km, alors ça ce n'est pas énorme, mais dans ce parc très fréquenté où les vélos choisissent souvent de ne pas rouler pour ne pas avoir à slalomer entre les piétons, cette nouvelle piste devrait rapidement trouver de nombreux usagers. Rien n'est encore fait, mais un appel à concurrence a été lancé par la direction de l'équipement pour une voie de 3 mètres de large à double sens et pour des traversées du boulevard Pomaré, enveloppe maximum 400 millions de francs. La piste de Paofai s'intégrera dans le plus vaste réseau de pistes en construction entre Papeete et Arroué, on vous en a déjà parlé.
En bref, ce drame de la montagne hier à Rurutu.
Oui, une randonneuse est décédée, sa sœur et elle ont chuté sur plusieurs dizaines de mètres au mont Manureva, le point culminant de l'île. L'autre victime s'en tire avec des hématomes.
Le Festival des langues polynésiennes est de retour, Valdemar.
Et pour cette deuxième édition, la Maison de la Culture a prévu une programmation deux fois plus riche que lors du Festival 2023. 4 jours cette fois contre 3 l'an passé. Une manière d'impliquer davantage la population qui, selon les organisateurs, doit pouvoir beaucoup pratiquer pour rentrer en immersion dans les langues. Les visiteurs sont ainsi invités à découvrir ou redécouvrir les langues autochtones encore vivantes dans les archipels. Un défi que certains artistes, intellectuels et linguistes vont tenter de relever en proposant des ateliers, animations et conférences en tahitien, en marquisien, mais aussi en paumotu ou dans des dialectes utilisés à Rapa ou aux Australes, le tout à des niveaux divers, allant des débutants aux plus aguerris.
Il y a des gens qui vont venir pour découvrir, pour en apprendre un petit peu plus, que ce soit sur la langue ou même le patrimoine, la culture des différents archipels. Et puis il y a des ateliers où il y aura des conférences pour vraiment les confirmer. Les anciens qui ont envie de pratiquer leur langue natale, ils pourront vraiment trouver de quoi dialoguer dans ce festival.
Alexandre Tenayo, chargé de communication pour Tefaret Aoitinui. Alors ce festival Paraotiama est aussi l'occasion de relancer le concours d'écriture et de lecture Arere, une épreuve qui prend de l'envergure à entendre les organisateurs, avec une trentaine de textes en lice contre une vingtaine lors de la première édition. De nombreuses candidatures sur la thématique Tupuna et venant des 5 archipels sont d'ailleurs déjà annoncées.
Cette année, c'est encore un succès, il y a beaucoup d'inscrits, on a des grands noms de la déclaration polynésienne, Patu, Minos, Van'a, on a Meari'u, on a vraiment des jeunes qui vont venir s'essayer. Et ça, c'est un concours unique, c'est un concours essentiel qui remercie et qui honore les langues et les déclamations. Donc vraiment le lien entre l'écrit et l'oral, c'est le concours Arere.
À noter enfin que ce festival est aussi l'occasion de découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, la pièce de théâtre Enreo Tahiti Itai. 3 représentations sont programmées jeudi 10 et vendredi 11 octobre à 13h30 pour les scolaires et puis le samedi 12 octobre à 19h pour le grand public.
On vous présente un autre festival, il est nouveau et il est centré sur l'électro.
Un format 100% beach party, c'est ce que propose Florian Sodoyer, le gérant de Studio 87, déjà à l'origine du Tiki Fest. Il lance le festival La Plage Amour le 14 décembre au Parc Veyreille. L'événement veut s'installer dans la durée sur un concept donc de beach club comme on peut en voir sur la Côte d'Azur, c'est ce que nous explique l'organisateur. La billetterie vient d'ouvrir.
On a commencé à développer de plus en plus ce format festival avec le Tiki Fest et le but était de scinder l'année en deux en fait. On va faire beaucoup moins d'événements au sein de Studio 87 mais plus gros. C'est le parti pris qu'on a voulu avoir et c'est vrai que nous on avait déjà fait des beach parties mais à des moments différents sans vraiment d'identité de marque. Là on veut donner une vraie identité de marque à la plage Amour et comme on a fait avec le Tiki Fest, on veut que ça puisse festival qui s'est reconnu à l'international et qu'on ait des gens du monde entier qui viennent partager ce festival avec nous.
Et pour cette première édition, 3000 billets sont mis en vente. Le show est prévu de 14h à 22h. Il accueillera notamment deux noms bien connus de la scène électronique internationale. Ils joueront tous les deux à au moins 1h30, à commencer par Klingand, mais aussi le duo Trinix.
Trinix, c'est vraiment la nouvelle génération. Ils sont un peu au pic de leur carrière. Là. Ils sortent d'une énorme tournée de festival. Ils font le Zénith de Paris dès le mois de mars. Donc on les chope entre deux. Et Klingand, qui vient avec son saxophoniste, avec tous ces gros tubes qui ont plus de 200 millions de vues sur les réseaux, qu'on connaît tous, comme Jubel par exemple, je trouve que ça ira parfaitement avec l'atmosphère d'une beach party à Tahiti. Donc très très content.
Et puis la programmation, n'oublie pas les producteurs locaux, Vaki, Raymana et Tov, tous trois membres de Teme Records, un label de Morea, joueront leur deep house de la musique chantée qui ne monte pas trop fort. Voilà ce que nous explique le Florian Sedoyer, qui promet un événement à ne pas rater pour les amateurs du genre.
Du foot maintenant, Valdemar, avec la Coupe du Monde de Football de 2026 en Amérique du Nord.
Et pour la première fois, deux sélections océaniennes ont une chance de se qualifier, une place pour le vainqueur des qualifications et une place en barrage pour l'équipe arrivée deuxième, une opportunité inédite que les sélections Samuel Garcia est déterminé à ne pas manquer. Les Tahitiens sont d'ailleurs partis hier soir pour le Vanuatu où ils doivent affronter la Nouvelle-Zélande jeudi. Alors la plupart des Néo-Zélandais évoluent dans les championnats professionnels européens. La première place du groupe devrait donc leur revenir, mais les Tahitiens ont sur le papier toutes leurs chances de décrocher la seconde, qui serait donc synonyme de qualification pour les phases finales qui elles se passeront en mars 2025. Mais en raison de restrictions de la fédération, la sélection est réduite à peau de chagrin cette année. Seuls 17 joueurs peuvent partir. On croise donc les doigts pour ne pas avoir de pépins physiques du côté du sélectionneur.
Sur une semaine, en croisant les doigts, en espérant qu'il n'y en ait pas un qui est la gastro et un qui se blesse à l'entraînement, sur une semaine avec un match, on est juste, mais on va dire qu'on va faire avec. C'est vrai que ça aurait été plus facile d'avoir le groupe entier, parce que même dans la gestion du groupe, pour amener après 21 joueurs au mois de novembre, il a fallu gérer un petit peu, donc... Mais on fait avec, on s'adapte, on a l'habitude de s'adapter, on va s'adapter encore une fois.
Et ils seront tout de même 4 de plus, vous l'avez entendu, soit 21 joueurs lors des prochains matchs de novembre. Cette fois, ce sera contre les Samoa et contre le Vanuatu. C'est tout de même le plus petit total de toutes les sélections océaniennes engagées dans ces qualifications.